Grand Angle sur Radio Orient.
Bonjour, avec vous François-Xavier de Calonne.
Grand angle sur le programme nucléaire iranien. Donald Trump a affirmé ce mercredi, après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, que le programme nucléaire de l'Iran a été retardé de plusieurs décennies par les frappes américaines. Entretien avec Benjamin Hautecouverture, historien, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il est l'auteur d'une tribune dans Le Monde. Retarder de quelques années l'avancée du nucléaire iranien est un succès, mais cela ne peut être l'objectif final d'une politique de sécurité durable. Benjamin Hautecouverture.
Une fois les destructions acquises, et vraisemblablement, si l'on s'en tient aux déclarations israéliennes, l'ensemble des objectifs opérationnels ont été atteints, il faudra s'assurer, d'une part, de ce qu'il reste, et d'autre part, de ce qui peut être repris. Et là, l'alternative est la suivante. Soit on confie, comme le demande Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, ce soin à l'AIEA, en envoyant sur place des inspecteurs qui font l'inventaire des matières, mais aussi l'inventaire des centrifugeuses. Sur ces 19 000 centrifugeuses, il est fort probable qu'un certain nombre, un nombre même certain et important, continue d'être fonctionnel. Or, il faudrait peu de place pour les réajuster, les refaire fonctionner en cascade et faire à nouveau repartir le programme d'ultracentrifugation.
Sachant qu'il s'agit, et c'est ce que vous dites, d'un savoir-faire presque lié à l'identité du pays.
Alors en plus, il y a ça. C'est une autre dimension de notre sujet, en effet, qui est le savoir et le savoir-faire, c'est-à-dire les ressources humaines, les compétences, la culture, la transmission, tout ce qui fait qu'un pays devient un pays nucléaire. Et en 40 ans, ce sont des générations d'ingénieurs, d'étudiants, de tout un tas de gens qui ont acquis beaucoup de choses. Or, ces gens-là, un petit peu à l'instar de ce qui s'est passé dans les années 90, 91 et puis toutes les années 90 après dans l'ex-Union soviétique, il faudra, le cas échéant, si on veut vraiment qu'ils ne travaillent pas sur un programme nucléaire militaire, leur redonner des jobs, leur redonner des positions qui leur permettent de continuer à travailler sans nourrir un programme sur lequel on a des suspicions. Donc, on parle là de centaines et de centaines de personnes, probablement de milliers. Donc, ces gens-là, il n'est pas possible de les passer par le fil de la baïonnette, si je puis dire. Là, on est en face maintenant du vrai problème qui se pose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de la suite, une fois qu'on a montré ses muscles.
Et un changement de régime ne résoudrait pas forcément ce problème.
Non, c'est un vœu pieux. En fait, c'est ce que tout le monde aimerait. C'est ce qui ne se dit pas. C'est ce qui s'espérait dans une grande partie des chancelleries occidentales. Or, un changement de régime qu'on aurait beaucoup de mal à qualifier aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'alternative politique en Iran, tout le monde le sait. Mais un changement de régime ne garantirait pas qu'un futur régime ne chercherait pas à capitaliser sur 40 ans de recherche nucléaire. Par conséquent, mettons-nous à la place d'un futur régime qui arriverait avec un tel savoir-faire, de telle capacité, il pourrait en faire quelque chose, il pourrait souhaiter en faire quelque chose. Donc non, ce n'est pas une garantie. Et ensuite, on ne sait pas quel régime viendrait à la place du régime des Mollahs. Donc je serais très prudent sur l'idée qu'un changement de régime puisse régler le contentieux nucléaire. Non, non, c'est beaucoup trop prématuré.
Dans cette guerre, c'est un élément important également. Qui, selon vous, a gagné la bataille de la communication ?
Ah, c'est une excellente question que vous posez là. Je serais bien en peine de vous répondre parce que, pour le moment, certainement, on ne peut pas dire que ce sont les États-Unis, puisque la communication de la Maison-Blanche n'est pas fiable du tout. Et tout le monde le sait. Tout le monde sait que, d'une certaine manière, le président américain réinvente en permanence l'histoire en la surimposant au réel. La communication israélienne est une communication de propagande. En revanche, sur le plan national interne, il est sûr que ça a été très fonctionnel. Si l'on voit la remontée de la cote de popularité de Benjamin Netanyahou. Mais je dirais aussi que la communication mesurée, finalement, du régime iranien qui est sur la défensive et qui argue de ce qu'il est la victime de cette affaire, est peut-être aussi en train de jouer en sa faveur. Je trouve que, en termes de communication, le pouvoir iranien, repoussé dans ses retranchements et clamant son droit, finalement, ne fait pas forcément d'eux le régime paria auquel on est habitué dans la perception que l'on a du régime des mollahs en Occident. Quoi.
Et ça, c'est un travail mené par ce régime. C'est le fruit de ce travail.
Oui, probablement, c'est le fruit de ce travail. Et puis, c'est peut-être aussi le fruit de leur situation, c'est-à-dire d'être tellement sous le coup des bombes et des missiles israéliens et américains, sans soutien militaire de qui que ce soit, dans une espèce d'isolement militaire total, que finalement, la réserve dans laquelle ils sont les met dans une situation, je dirais, de victimes. Et peut-être savent-ils capitaliser sur cette situation, en effet, depuis une dizaine de jours. Auprès de qui ? Je ne sais pas bien, parce qu'on parlerait probablement des opinions publiques et pas tellement plus que les opinions publiques, mais c'est peut-être un constat quand même qu'on peut faire.
Merci beaucoup, Benjamin Haute-Couverture.
Je vous en prie.
Je rappelle que vous êtes Merci politiste et historien, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.